France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Julie Fuchs. À 19h40, Affaires critiques. Lucille Comeau nous parlera du film Valeria Bruni-Tedeschi, Les Amandiers. À 19h45, Affaires en cours par Marie Sorbier à l'occasion de la nouvelle parution du livre de Marc Danielewski, La Maison des Feuilles. Claro, traducteur de l'œuvre, nous raconte les enjeux narratifs de ce roman hors norme. 19h50, Affaires à suivre en compagnie de la chef d'orchestre Marie Jacquot. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Dalia et Alex Dang à la prise de son. Bonsoir Julie Fuchs.
Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous.
Vous sortez ce vendredi un nouveau disque, Amédée, chez Sony Classical. Vous serez en concert au TCE, Théâtre des Champs-Élysées, lundi prochain, le 21 novembre, avec un programme tout aussi mozartien. Belle occasion pour nous de vous recevoir, pour revenir sur votre parcours. Un parcours qui, très tôt, est marqué par l'art, opéra, opérette, théâtre, puisque vous avez grandi à Avignon, où il y avait bien sûr les spectacles du festival l'été, qui vous donnent ce goût pour le théâtre. Et on sait quelle comédienne vous êtes et qui vous fait créer aussi quantité de spectacles faits maison, paraît-il, grâce aux costumes que votre mère entreposait dans le garage familial.
Vous êtes bien renseignée déjà, je vois.
Toujours.
Perpétué la tradition.
Ça continue ?
Oui, oui.
Ah, ça c'est bien. vous grandissez aussi à une époque où l'opéra municipal programmait beaucoup d'opérettes.
Oui.
Vous avez beaucoup écouté un disque de compilation de Paulette Merval et Marcel Merkès. Art encore, vous auriez aimé faire de la danse, mais vos parents vous inscrivent au conservatoire pour apprendre le violon. Vous avez 7 ans. Le plaisir pour vous consiste à jouer dans un ensemble, vous n'aimez pas être seul devant le public. Et puis, vous intégrez l'année de vos 14 ans un chœur européen, Voices of Europe, avec lequel l'année suivante, vous allez partir chanter dans une dizaine de pays d'Europe. Ce voyage-là, Julie Fuchs, est-ce qu'il est, au sens propre, mais aussi au sens figuré, un voyage initiatique pour vous ?
Complètement. C'est ce qu'on appelle un changement de cap, quoi. C'est-à-dire que c'était une découverte non seulement de ma voix, tout simplement, puisque c'est la première fois que j'utilisais autant ma voix, mais du plaisir de faire de la musique avec d'autres personnes autour de moi, de vibrer au sein d'un groupe, mais aussi de côtoyer dix nationalités différentes, de changer de pays tous les trois jours, de voyager. C'était un tout qui m'a vraiment de découvrir aussi un répertoire extrêmement varié, puisque on chantait un répertoire de chaque pays. Donc oui, c'est vraiment ça m'a vraiment initiée à ma vocalité, mais aussi à ce métier qui va avec, c'est-à-dire un métier de rencontre, un métier d'échange, un métier de voyage.
Et pour autant, j'ai lu que vous ne vous imaginiez pas chanteuse professionnelle. C'est un professeur qui vous y encourage. Au lycée, vous allez suivre un cursus littérature-théâtre. Au conservatoire, vous entrez dans la classe d'art lyrique de Pierre Guiral. Avec vos frères, vos amis du conservatoire, vous allez fonder aussi un quintet vocal a cappella nommé « Il n'en manque qu'un pour faire un sextuor », meilleur titre de groupe. Vous poursuivez le violon en parallèle, premier prix de violon à l'issue de votre formation. Qu'est-ce qui fait que vous allez sauter le pas en fait et que vous vous dites « bon, c'est le chant ».
Sauter le pas, j'aime bien l'expression, c'est un peu ça qui s'est passé à mes 19 ans, je dirais. Effectivement, je pensais pas un jour être chanteuse d'opéra parce que c'était pas une case qui était dans mon cerveau, tout simplement. Je ne savais pas vraiment que c'était un métier. Je savais que j'aimais la musique, mais, et puis ça me faisait très peur. Ça faisait aussi très peur à ma famille, je pense, même s'ils aiment la musique. Donc, je crois que le pas, j'ai un peu été poussée dans le dos par mes profs. J'ai eu énormément de chance de rencontrer ces professeurs-là qui étaient extrêmement bienveillants, qui n'étaient pas du tout, qui n'ont pas essayé d'avoir une emprise sur moi, qui ont respecté qui j'étais en allant à mon rythme, en rassurant mes parents et en me faisant chanter très vite dans un contexte professionnel. C'est-à-dire que ça faisait même pas quelques mois que je chantais, mon professeur de chant m'a invité à chanter avec lui et tout de suite il m'a intégré comme ça à la vraie vie d'un chanteur. Et donc c'est lui qui je lui dois beaucoup à ce Pierre Guéral qui m'a extrêmement mise en confiance dans quelque chose de très doux. Voilà, c'était pas du tout « tu vas faire carrière, tu vas faire le conservatoire supérieur », mais plutôt « tu vas voir, on va bien s'amuser ».
Alors s'amuser, et pas seulement, parce que c'est très sérieux, il n'y a pas que le classique dans votre vie, Julie Fuchs, le jazz a son importance, la chanson, comme avec Göttingen, que vous chantez sur cet album de reprise des chansons de Barbara en 2017. J'avais envie qu'on commence par écouter cette chanson-là, et cette chanson, il paraît que vous l'aviez chantée dans un chœur d'enfant, déjà à Avignon, lors d'un spectacle.
Exact, mais j'avais même oublié moi-même.
Ouais, vous venez nous voir quand vous voulez quelque chose sur vous.
Effectivement, en fait, en cours de solfège, quand on est un jeune étudiant au conservatoire, on a des spectacles de fin d'année. Et effectivement, cette chanson faisait partie d'un spectacle. Oui, oui.
Bon, quelques années plus tard, on est en 2017, c'est dans l'album Elle et Barbara.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen. Pas de quai et pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même, à Göttingen, à Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois, commence à Göttingen. Bien sûr, nous avons la Seine. Et puis notre bois de Vincennes, mais Dieu, que les roses sont belles, à Göttingen, à Göttingen. Nous, nous avons nos matins blêmes, et l'âme grise de Verlaine, c'est la mélancolie même, à Göttingen, à Göttingen. Quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là à nous sourire. Et nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent, mais les enfants ce sont les mêmes, à Paris ou à Göttingen. Oh, faites que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime. Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen.
Chanter Barbara ou chanter du jazz, Julie Fuchs, ça vous procure quel type de sensation, de plaisir?
C'est comme un retour à la maison, c'est une connexion tellement directe, je trouve, et puis un rapport avec les mots selon les mots qu'on chante, qui peut être très fin, très délicat. C'est vraiment autre chose et c'est quelque chose dont j'ai besoin et qui me nourrit aussi quand je chante de l'opéra. Voilà, j'ai le rêve presque secret jusqu'à ce que je le dise maintenant, mais maintenant il va plus être secret, mais j'ai le rêve d'enregistrer mes propres chansons un jour. Et c'est vrai que j'ai toujours eu ce rapport au texte et quelque part à la simplicité de la musique et au côté très direct et personnel qu'elle met en œuvre chez chacun de nous, quoi.
Alors j'ai changé toutes mes questions. Vous faites paroles et musique, Julie Fuchs ?
Oui, mais alors attention, c'est très simple. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais oui, j'écris mes chansons.
Et vous composez sur quel instrument ?
Piano. Du coup, c'est très simple, parce que ouais. Je suis pas pianiste.
Le violon, vous avez arrêté ou vous continuez ?
Alors je sors mon violon quand je suis malade et que je ne peux pas chanter et que j'ai envie de faire de la musique quand même.
Bon.
Mais du coup, c'est pas
on
très.
On souhaite
jojo,
qu'il reste
quoi.
Dans son étui.
Bah, hein, c'est-à-dire que le violon, si on ne le sort pas tous les jours, on perd très, très, très vite. Quoi.
Bon, allez, revenons oui. à ce passé. 2006, vous entrez dans la classe de chant de Robert Dumay, puis d'Alain Buet, au CNSM de Paris. On va entendre ce dernier, c'était en 2011 sur France Musique.
La motivation, c'est évidemment trouver des moyens techniques pour trouver aussi un confort et pouvoir s'exprimer le plus librement possible et aussi sortir donc de cette maison ici, donc du CNSM, et trouver du travail. C'est-à-dire, ici, on est dans une maison où on forme des gens à un avenir professionnel. Donc la première interrogation, c'est est-ce que je pourrais faire mon métier de la musique et du chant ? Donc il faut répondre à ça, et ensuite, si la réponse est positive, la plupart du temps, c'est positif. Pas toujours, mais la plupart du temps, oui. Mais il faut essayer de les guider. Moi, pour ça, je suis loin d'être tout seul, même si j'ai une classe de 6 étudiants. Il y a un département extrêmement riche ici, le département des études vocales, où il y a une multitude de professeurs, de gens qui interviennent justement pour aider tous les jeunes à parfaire leur culture, leur chant, leur technique, et aussi à réfléchir sur l'avenir. Donc il y a des profs de théâtre, des profs de langue, des professeurs de scène, de travail postural, de piano, enfin il y a énormément de disciplines qui sont enseignées. On est quand même une équipe. Enfin, je crois qu'il y a plus d'enseignants que d'étudiants. Donc c'est quand même extraordinaire. C'est vraiment depuis que je suis là, je mesure mieux maintenant l'intérêt de l'établissement, mieux que quand j'étais moi-même étudiant.
Vous les avez vécues comment ces années conservatoires, Julie Fuchs ?
C'est drôle parce que par rapport à ce que dit Alain Buet là, j'ai envie de répondre. Et moi, depuis que je ne suis plus au conservatoire, je mesure toute la richesse de cet enseignement et de ce département. Pour moi, c'était une grande surprise d'être reçue déjà au conservatoire supérieur en tant que violoniste. Pour moi, c'était impensable, et donc en tant que chanteuse, encore en tant que chanteuse d'à peine 2 ou 3 ans d'études, c'était encore plus inimaginable. Et quand j'ai été reçue, c'était une grande joie, une grande fierté et une grande peur aussi. Et je pense que c'est très bien parce que du coup, ça m'a placée dans une posture extrêmement. J'étais avide de connaissances, j'allais peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, j'avais mon moment à la médiathèque où je regardais des DVD, écoutais des CD pour mieux connaître, parce que j'avais l'impression que je manquais totalement de culture, etc. Et puis de côtoyer tous ces jeunes artistes, déjà avec quelque chose à dire en tout genre, non seulement les chanteurs, mais aussi les instrumentistes, les chefs d'orchestre, les compositeurs. C'est une chance incroyable en France d'avoir ces institutions-là. Et je le dis, si jamais il y a des jeunes étudiants qui nous écoutent, c'est un grand privilège. Il faut en profiter quand on y est. Et faut pas croire que ça nous est dû, quoi. C'est vraiment, il faut vraiment en tirer profit quand on y est, ouais.
Il est toujours bon de redire ces choses-là, Julie Fuchs. Alors vous sortirez, vous, du conservatoire en 2010 avec un premier prix de chant, félicitations du jury. Mais avant cela, avant même d'être diplômé, dès 2009, vous êtes Maria dans The Sound of Music au Châtelet. Il y aura très vite aussi l'un des premiers rôles avec Elle, l'héroïne de L'amour masqué. Vous remportez le prix Révélation classique de la Dami. Vous participé à l'Académie d'été du Festival d'Aix-en-Provence et j'aimerais m'arrêter un instant cette expérience parce que pas mal d'artistes qui sont passés ici m'ont dit à quel point ça avait été important pour elles, pour eux. Est-ce que ça a été le cas pour vous aussi?
Oui, pour moi, c'était une grande découverte de faire partie d'une académie. C'était la première fois que je rencontrais d'autres étudiants de mon âge, à peu près de mon niveau en chant. Et c'était en plus spécifiquement Mozart. Donc, j'étais dans mon bain. j'ai écouté tous les spectacles du festival. J'ai rencontré des professeurs, des coachs. C'est lors de cette édition, donc 2009, où j'étais en résidence, que j'ai rencontré Louis Langrée pour la première fois que j'ai fait des concerts avec lui. Donc tout ça c'est extrêmement enrichissant pour un tout jeune chanteur qui n'est même pas encore en carrière.
Et puis la carrière, elle va suivre, hein. Les plus grands rôles sur les plus grandes scènes, pour résumer. Pour autant, chanteuses et chanteurs lyriques sont, il faut le rappeler, ça aussi, des athlètes de haut niveau, avec une gestion des efforts à effectuer, avec aussi des objectifs à se fixer, en pouvant aussi dire non à telle proposition, parce que ce n'est pas encore le bon moment, on ne se sent pas prêt ou prête, enfin, au niveau de sa voix. Comment les choses se sont passées pour vous? Comment est-ce que vous avez dirigé ou fait votre carrière jusqu'ici?
Je ne sais pas trop répondre à cette question. J'ai l'impression d'avoir eu beaucoup de chance. J'ai eu plus souvent à dire non que oui. Donc finalement, c'était, et c'est pas forcément le plus facile, hein, de dire non, parce que voilà. Après, l'agenda souvent a fait les choses à ma place, c'est-à-dire que souvent, ce sont les premières propositions qu'on reçoit qui restent. On évite d'annuler.
Parce qu'il y a mieux après.
Voilà.
C'est pas très simple.
J'ai essayé une ou deux fois.
Vous vivez pas bien.
C'est-à-dire que ça s'est pas très bien passé avec
D'accord.
les directeurs. Quoi.
Oui, bon.
Puis il faut honorer, je trouve, sa parole. Puis il faut aller à son rythme. Faut pas aller trop. J'ai refusé des premiers plans à l'Opéra de Vienne parce que j'avais déjà accepté des seconds plans dans un autre opéra de moindre importance. Bon, ben voilà, faut accepter ça. Mais donc après, tout s'est fait plutôt organiquement, je dirais. J'ai eu la chance de travailler avec des metteurs en scène, de rencontrer des metteurs en scène, notamment quand j'étais dans l'ensemble, dans la troupe à Zurich, avec qui j'ai eu une relation merveilleuse, privilégiée. Pas tous, mais certains, avec qui vraiment ça a connecté.
Lesquels ont compté le plus ?
Alors, il y a eu Christophe Marthaler, Christophe Loy, Calixto Bieto. Et donc, avec ces metteurs en scène-là, ben, on avait envie de se retrouver. Donc, ça crée des projets. Et donc, voilà, tout s'enchaîne. Là, je dirais, le challenge pour les prochaines années, c'est plutôt de me préserver du temps pour me renourrir à mon tour d'autres manières qu'en étant sur scène.
Puis faire votre disque aussi de vos chansons. Ça, on ne l'oublie pas. Quand on parle de questions aussi très pratiques dans cette émission, savoir qu'est-ce que c'est que le quotidien des artistes que nous rencontrons, j'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs de vos consoeurs de la question de la maternité. Mm-hmm. Et on a souvent plutôt parlé du travail à faire pour retrouver sa voix. Mais dans votre cas, les soucis ont commencé, on s'en souvient, avant l'accouchement, en 2018. Vous êtes écarté d'une production à l'Opéra de Hambourg, là on peut le citer, de la Flûte Enchantée, mais en raison de votre grossesse. Mais vous êtes devenu, d'une certaine façon, malgré vous, mais volontairement, porte-voix de vos camarades. C'est un moment important quand même.
Oui, c'est-à-dire que c'est pas du tout un moment important pour moi. Moi, je l'ai pas pris personnellement. Je n'étais pas du tout, émotionnellement, je me sentais pas trahie. Juste, je trouvais que c'était une injustice faite au statut de la femme enceinte, en fait, et de la femme artiste en général. Ouais. C'est-à-dire que on est soi-disant interchangeable parce que c'est plus simple de remplacer une soprano que de remplacer 10 secondes de mise en scène où on a peur que peut-être la soprano enceinte de 4 mois trébuche sur 60 centimètres. Oh, c'est pas possible. Donc, j'ai décidé de réagir une colère juste peut-être, mais quand j'ai reçu énormément de messages de mes consoeurs qui m'ont remercié d'avoir un petit peu ouvert le débat, enfin pas le débat d'ailleurs, c'est pas un débat du tout, c'est juste qu'on fait pas ça.
Voilà.
Parce que elles n'ont pas pu le faire, parce que on leur a fait ensuite du chantage pour si elles en parlent, on les réinvite plus et on parle à son copain directeur. Et bon, quand j'ai vu ça, je me dis non, ça c'est pas possible, on ne peut pas laisser faire ça. Et il faut dire haut et fort qu'on peut d'abord qu'une femme enceinte, surtout dans son deuxième trimestre, c'est la reine du monde. Enfin, vraiment, je vous
le dis, vous
physiques. Devez le savoir, mais on est, j'étais plus en forme que maintenant. Donc voilà, et puis à 7 mois et demi, j'ai chanté sur... ouais. Alors, je ne dis pas ça pour tout le monde, voilà, la grossesse est différente pour chacune, mais il se trouve que moi, j'étais tout à fait en forme. Donc,
on l'a vu il n'y a pas si longtemps, Sabine de Vielle aussi, voilà, vraiment très très rond,
voilà,
magnifique.
Et c'est magnifique de chanter, d'ailleurs toutes les chanteuses disent ça, c'est quand même un plaisir de chanter enceinte. Donc, je ne sais plus quelle était la question, mais je m'enflamme à nouveau.
Non, mais c'est parce que c'était important de prendre la parole et que les choses ont quand même changé.
Oui, après, il faut que ça change aussi sur la suite. C'est-à-dire que je n'ai pas rencontré énormément de maisons où on facilite l'allaitement. Ou, voilà, c'est quand même... Il y a des choses à faire, mais elles sont en train d'être faites. Et je salue toutes ces initiatives.
Bon, ça, c'est bien d'en parler aussi. Mais on évoquait Mozart indirectement avec cette flûte enchantée, mais... Pour mieux savoir comment vous travaillez, on va parler de ce nouveau disque qui sort vendredi, Amadé. Oh, j'y arrivais pas. Je me suis trompé tout à l'heure, vous me l'avez fait remarquer. Antenne, c'est Amadé.
Amadé comme Amadeus.
Amadeus, bien sûr. Mais on va
Mais j'ai juste expliqué pourquoi.
On va dire le pourquoi du titre. Mais on va tout d'abord écouter un extrait, la plage qui ouvre le disque. C'est un extrait de l'acte 4 des Noces de Figaro. Amadé, comme vous l'expliquez dans les notes de pochette, Julie Fuchs, c'est la signature que Mozart utilise pour son cercle proche, ses intimes, sa famille. C'est donc votre Mozart intime que vous nous dévoilez ici?
Oui, exactement, c'est ça dont j'avais envie depuis longtemps en fait. C'est de ce Mozart qui m'appartient. J'ose le dire parce que c'est pareil pour tout le monde. Quand on aime quelque chose, on a l'impression qu'il est à nous et rien qu'à nous et c'est très bien. Et je pense que c'est le génie de Mozart qui nous donne cette impression qu'il nous parle à l'oreille, quoi, qu'il nous parle rien qu'à nous et qu'il a compris des choses qu'il nous explique en musique et que nous, on n'arriverait pas à dire avec des mots.
Alors, pour choisir les airs qui composent ce disque, vous avez aussi collaboré avec le pianiste et chef d'orchestre Pedro Berizzo. Comment ça se passe, une collaboration comme ceci? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, cet air que vous avez choisi des Noces qui ouvre le disque?
Alors, il y a plusieurs raisons. C'est vrai que Pedro a été un collaborateur merveilleux parce que d'abord, il a une connaissance folle et puis il était une connaissance de la voix, une connaissance du répertoire et un enthousiasme que je partage donc, pour ce répertoire. Donc, on était tout le temps en train de s'écrire, mais dans une énergie de... Comme si on allait faire la fête, quoi. Comme si on allait faire un mauvais coup. Et c'était très, très agréable de travailler comme ça et pas dans un esprit musicologique ou dans un esprit commercial ou dans un esprit... Voilà, c'était vraiment...
Le plaisir.
Voilà, on avait ce
projet-là. La jubilation, là.
Exactement. Ouais. Et donc, pour le coup, cet air ouvre le disque pour plusieurs raisons. D'abord parce que le disque s'articule autour de plusieurs thématiques, mais... ce qui a donné naissance à ce disque, c'est aussi ma rencontre avec l'orchestre, le Balthasar Neumann Orchestra et Thomas Engelbrock.
Qui vous accompagne sur ce disque.
Voilà. Et qui, que j'ai rencontré à l'occasion des Noces de Figaro en 2021 au Festival d'Aix-en-Provence. On y retourne. Et à la fin de cette production des Noces, on s'est dit, il faut qu'on travaille encore ensemble, qu'on fasse Mozart. Et on avait parlé du fait que finalement, une même chanteuse pouvait chanter les quatre rôles féminins, Barberine, Suzanne, la comtesse et même Marceline. Et donc, on a articulé finalement ce disque autour de ces trois principales figures féminines des Noces qui mènent la danse, en partant de la plus jeune, Barberine.
Qui était, à l'époque, elle avait quoi, 14, 15 ans
Voilà, la chanteuse, et ça c'est aussi une autre thématique du disque que je trouve absolument fascinante.
C'est l'évolution de la voix.
C'est-à-dire que Mozart a écrit pour des chanteuses en particulier, pour des femmes en particulier, avec leurs caractéristiques vocales.
Et Anna Gottlieb, je retrouvais plus.
Exactement, bravo. Et avec ce qui lui inspirait. Et on voit donc cette Anna Gottlieb qui a créé Barberine quand elle avait, je crois, 15 ans, je crois. À peine 2 ans plus tard, elle a créé Pamina. Donc c'est la même chanteuse qui a chanté ces deux rôles à seulement 2 ans d'écart. Et je trouve ça fascinant aujourd'hui d'imaginer ça. On ne verrait pas ça dans un théâtre aujourd'hui. Et on sent bien dans la tessiture, dans la manière dont c'est écrit, que c'est pour la même chanteuse. Mais aussi, je trouve, dans l'esprit. C'est-à-dire cette douce nostalgie, cette suspension. C'est présent dans les deux airs. Et je pense que ça veut dire beaucoup sur la façon dont Mozart s'inspirait de ces chanteuses et sur la façon dont ces chanteuses ont sublimé les œuvres même de Mozart.
On va écouter un autre extrait nettement plus long. Il provient cette fois-ci de Zaïd, œuvre inachevée. Alors comment cette air arrive dans le disque? Pourquoi ce choix?
Alors c'est très simple. Aucune musicologie nécessaire, si ce n'est dans l'agencement des airs, puisqu'il n'est pas très loin de l'enlèvement au sérail et du Tamos, qui sont des œuvres qui abordent la même thématique. Zaïd, c'est tout simplement un air que j'ai énormément chanté, notamment en audition. C'était mon air d'audition.
Ah ouais.
Donc c'est aussi en ça qu'il m'appartient et que c'est mon Mozart de l'intime. Je le conseille à toutes les jeunes chanteuses parce qu'il est génial. Il est en deux parties.
Il y allait, hein, on va entendre. Mais...
C'est-à-dire que, surtout si on a un peu le trac, c'est parfait. Parce que là, il n'y a pas la place. Vous allez entendre, il n'y a pas la place pour le trac. On y va, bim, c'est parti. Mais il y a une deuxième partie où on peut montrer un peu plus de subtilité dans la voix.
Avant que ça reparte très fort.
Voilà. Et puis, il y a un côté rock'n'roll dans cet air que je voulais absolument sur le disque.
On écoute.
Ein törichtes Vertrauen auf Verstehen.
Rock'n'roll, hein, j'ai dit Fuchs. Hein.
Ouais, je vous ai vu diriger un peu là, l'orchestre.
Oui, mais je fais ça dans mon temps perdu. Vous révisez en même temps, parce qu'il y a des concerts qui arrivent.
Bah oui, 19, faut que je les annonce, c'est ça? 19 novembre à Aix-en-Provence, au Grand Théâtre d'Aix-en-Provence,
ah,
à côté de la
bien.
Maison. Et puis,
lundi, 21,
et puis 21 novembre,
Théâtre des Champs-Élysées.
Théâtre des Champs-Élysées, ouais.
Quand on s'investit à tel point dans un disque, le porter à la scène, ça exige quoi en fait? Pour retrouver l'esprit même du disque?
Bah, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que j'ai plutôt le sentiment d'avoir porté au micro l'esprit de la scène, même s'il n'y a pas eu de concert en amont, mais c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que la scène, c'est, pour moi en tout cas, c'est plutôt l'élément naturel, et donc l'enregistrement, j'essaye d'y amener l'énergie d'un concert.
Comment vous faites? C'était au château de Fontainebleau, mois de janvier dernier,
oui.
Vous avez enregistré ce disque. Comment vous
Alors d'abord, on dort très très bien, on boit beaucoup d'eau, on se chouchoute. Comme ça, quand on arrive devant le micro, on ne pense plus à rien et l'instrument est absolument libre de faire tout ce qu'on lui demande ou tout ce qu'on veut bien le laisser faire. Mmh. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on choisit surtout un orchestre et un chef avec lequel il y a une vraie connexion, ce qui était absolument le cas avec Thomas Engelbrock et le Balthazar Neumann Orchestra. Et
on a passé Andreas Kuppers au piano forte.
Oui, exactement.
Citons-le.
Oui, oui, citons-le, parce qu'il y a des morceaux d'ailleurs avec lui, uniquement lui, dans le Comis Cordidite ou dans le Lied à la fin du disque. Ouais. Et il a aussi aidé beaucoup dans la conception du disque avec notamment des pièces orchestrales.
Il faut avoir le même désir, il faut être ensemble.
Ouais, il faut être ensemble. Il faut avoir le désir aussi d'aller jusqu'au bout, de faire plein de propositions, d'être alerte, quoi. Ouais. Voilà.
Je ne sais pas si ce disque va recevoir des prix, je le souhaite, hein, mais vous en avez reçu beaucoup, vous, Julie Fuchs. C'est une révélation lyrique, Victoire de la Musique 2012, Artiste Lyrique de l'année aux Victoires toujours en 2014-2021, d'autres prix encore. Qu'est-ce que ça fait de recevoir un prix? Est-ce que vous êtes sensible à ces récompenses?
Ça serait faux de dire que ça fait rien, mais y a tellement d'autres choses qui font plein d'autres choses. Enfin, je pense que le prix qui m'a le fait le plus... le plus quelque chose, ça serait peut-être Révélation Lyrique en 2012, parce qu'on est tout jeune et que ce prix-là est vraiment le vote, en tout cas à l'époque, c'était vraiment le vote du public. Donc c'est un vrai prix, quoi. Je veux dire, c'est pas d'obscurs jurés qui ont décidé, on ne sait pas pourquoi.
Les intrigues.
Voilà. Non, mais en plus, je pense que tout est assez transparent. Mais c'est un prix qui veut vraiment dire quelque chose. Après. C'est très difficile parce que je suis quand même honorée, mais
il y avait Opéralia qui a compté.
Oui, mais pareil, Opéralia, ça a compté parce que dans le jury, il y avait des directeurs de théâtre qui m'ont remarqué, qui m'ont invité après dans leur théâtre. Le prix en lui-même, vous savez, c'est une compétition comme Opéralia, par exemple, c'est un moment T. Et en fait, ce moment-là, il dépend de tellement de choses que ça ne peut pas nous définir. Un prix ne peut pas nous définir. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, ça peut mettre un baume au cœur, ça peut être une fierté, ça peut être un bel objet de décoration. Mais c'est pas une fin en soi.
Vous parliez de scène, je dis fou que c'est comme je vois que le temps qui...
Pardon, je parle, je parle.
Ah bah non, bah vous êtes là pour ça, et moi je suis ravi et je pense que nous sommes nombreuses et nombreux à l'être, de vous écouter. Mais quand est-ce qu'on vous verra sur scène dans les prochains mois, prochains temps? On peut annoncer
Alors,
des choses?
Le 19 novembre.
Non mais au-delà, pardon, au-delà d'Amadé.
En France, alors prochainement, donc après mes concerts à Amadé, je serai à Salzbourg pour le Requiem de Mozart le 5 décembre. Oui, on reste avec Mozart. Et puis ensuite, ce sera une toute nouvelle production de Giulio Cesare dans laquelle je jouerai Cléopâtre, une nouvelle production de Calixto Bieto, dirigée par Emmanuel Haïm à l'Opéra d'Amsterdam. C'est pas très loin de Paris, donc voilà.
Le TGV.
Et ensuite, je retournerai à Zurich pour Juliette de Gounod, Don Pasquale de Donizetti, et je vous dis tout ou pas? Et je retournerai à Barcelone, que j'adore, dans une production que j'adore, qui est Le couronnement de Poppée, que j'avais créée enceinte de 7 mois, justement.
Et, le retour.
Et voilà. Donc en France, j'y suis plus après le 21 novembre.
Ah, bah, il faut y être au Théâtre des Champs-Élysées. Non, parce que, on le sait pas forcément parmi les gens qui nous écoutent, votre agenda, il est fait jusqu'à quand aujourd'hui? De production.
Alors, ça dépend. Avec le Covid qui est passé par là, ça a changé un peu la donne. Les gens sont quand même un peu plus en retard qu'avant. Enfin, en retard, non. Vous voyez, ouais. Vous allez comprendre.
Ouais. Dites-moi, jusqu'à quand vous êtes prise?
4 ans. Non, mais c'est-à-dire que... Alors après, je ne sais pas, hein, c'est le hasard des demandes et des possibilités. Mais oui, en gros, c'est 4 ans à l'avance.
Bon, alors, et puis bon, il faut, dans ces 4 ans, il faut aussi préparer le disque des chansons. Par Julie Fuchs, j'y tiens. Je rappelle que c'est ce vendredi que sort ce nouveau disque à Madé. Donc les concerts, samedi à Aix-en-Provence, lundi soir au Théâtre des Champs-Élysées. Programme évidemment très mozartien. Merci Julie Fuchs d'avoir été notre invitée.
France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
C'est maintenant l'heure d'Affaires critiques. Bonsoir Lucille Como.
Bonsoir Arnaud.
Foin de suspense, Lucille. Disons-le d'emblée, vous avez été déçue par Les Amandiers, le film de Valeria Bruni Tedeschi. Maintenant, reste à savoir pourquoi.
Oui, je l'attendais, ce film qui devait m'intéresser à plusieurs titres. Déjà parce que l'histoire des Amandiers, ce théâtre-école dirigé par Chéreau dans les années 80, ça intéresse la théâtreuse en moi. Et puis, parce que je suis toujours curieuse des films de Valeria Bruni Tedeschi. Un cinéma que je trouve toujours à la limite du supportable, dans ce qu'il démontre d'éco-centré, de bavard, de bourgeois dans la posture et en même temps, toujours assez brillant et suffisamment drôle pour que ça passe. Alors là, ça ne passe pas. Je trouve le film pas très intéressant, ni dans ce qu'il rapporte d'un récit personnel, ni sur ce qu'il documente de l'expérience Chéreau. Alors, c'est donc l'histoire de Stella, 20 ans, nous sommes dans les années 80, et comme d'autres jeunes de son âge, elle passe le concours pour entrer dans la célèbre école du théâtre des Amandiers à Nanterre, dirigée par Patrice Chéreau et Pierre Roman. Elle y rencontre des passionnés de théâtre comme elle, et notamment Étienne, dont elle tombe amoureuse, qui se débat avec ses démons et parmi eux, un répandu dans le milieu, la drogue.
C'est une école que Valeria Bruni Tedeschi a elle-même fréquentée à l'époque.
Oui, et le film prend la forme d'une chronique qui suit d'abord les élèves passer les épreuves d'entrée, apprendre les résultats affichés sur la porte du théâtre, avoir cours, faire un stage aux États-Unis, répéter une pièce de Tchekhov avec Chéreau, mais aussi s'aimer, changer de partenaire, avoir peur d'avoir le sida, faire la fête et se défoncer. Toutes ces séquences qui voudraient sans doute dessiner la fougue et le désespoir de la jeunesse sont très attendues, avec cette espèce de mythologie sans cesse reconduite et bourrée de clichés. Ce que c'est qu'être un jeune artiste, prêt à tout pour son art, nécessairement torturé, qui n'hésite pas à foncer en voiture pour frôler la mort et se sentir vivre. Tous ces lieux communs agacent et se concentrent particulièrement dans un personnage, ce fameux Étienne, rimbaldien en diable, qui vit l'écharpe au vent, miteuse hein, comme il se doit, et dont la destinée tragique agace là où elle entend sans doute émouvoir. L'histoire d'amour, tragique aussi, évidemment, ne survit pas à ce romantisme suranné, celui qui veut aussi que le personnage principal, Stella, porte le nom d'une héroïne écorchée de Tennessee Williams. Et comme c'est une des lignes narratives les plus saillantes, on s'ennuie ferme. Côté théâtre, pas grand-chose à se mettre sous la dent non plus. Ce qu'on voit de leur pratique paraît être de l'ordre de la transpithique, dans la grande tradition de l'inspiration à la française. On ne les voit pas vraiment travailler. Les sessions, par exemple, de lecture à table de Platonov sont moins des lieux pour montrer la vision de Chéreau, réduite à de vagues maximes du genre « ce que vous ressentez dans la vie vous sert sur la scène », que pour montrer la relation un peu sadomasochiste qu'il entretenait avec ses élèves, la cruauté, la séduction. C'est l'affect qui intéresse Bruni Tedeschi, mais cet affect-là ne dépasse jamais le stade du cliché romantique. Les acteurs, jeunes et moins jeunes, Nadia Tereskiewicz, Sofiane Benacer, Louis Garrel et Michel Esco font bien ce qu'ils peuvent. Ils sont étouffés dans des rôles bien faibles. La singularité de l'expérience autobiographique, elle aussi, peine à émerger. Les années 80, c'est plus une esthétique un peu vintage qu'un vrai contexte vécu, avec cette image à gros grains qui imite la pellicule et ces tubes de pop qui fétichisent l'époque. Elle survient cependant parfois, cette singularité, lorsque le film saisit ses personnages en dehors de l'école, où paradoxalement ils semblent vivre et exister. L'un seul est pauvre, un autre dont la très jeune épouse attend un enfant et est atteinte du sida. Stella, elle-même, seule avec un vieux majordome dans son immense palais de riche héritière. Tout un autre monde qui reste presque toujours hors champ. Et on a l'impression que se niche ce qu'on aime d'habitude dans le cinéma de Valéria Bruni-Tedeschi.
Donc c'est la théâtreuse en vous, c'est la matrice de Valéria Bruni-Tedeschi qui est déçue, on l'entend bien. Les Amandiers, en tout cas, est sorti en salle aujourd'hui. Affaire en cours maintenant avec Marie Sorbier, bonsoir.
Bonsoir Arnaud.
Ce soir, vous nous parlez de La Maison des Feuilles, ce formidable livre, un livre, on dit culte, mais bon, qui vient de paraître à nouveau dans une édition remasterisée.
Oui Arnaud, alors c'est en effet un roman culte, un objet littéraire non identifié, écrit par Marc Danielewski dans les années 90, publié enfin dans les années 2000, et en 2022, les éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture décident d'offrir aux lecteurs français une édition remasterisée, qui a pour objectif d'être la plus conforme possible à l'original, et ça, c'est pas une mince affaire. Car vous l'aurez deviné, ce n'est pas un livre comme les autres, c'est une énigme, des strates de lecture vertigineuses, une exploration qui ne laisse personne indemne. Je suis allée retrouver Claro, qui a eu la lourde tâche de traduire cette œuvre monstre. Claro, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes traducteur, auteur aussi. Ce livre terrifiant, en bien des endroits, c'est aussi un cauchemar pour le traducteur. Comment on attrape un objet pareil ?
Alors on l'attrape de façon très diverse, parce qu'on s'aperçoit très vite quand on est traducteur qu'on a affaire non pas à un livre, mais il y a plusieurs livres, hein, puisqu'il y a plusieurs niveaux de narration. Il y a aussi tout un côté qui va être analyse, discours philosophique sur le cinéma, etc. Donc on sent qu'on va pouvoir travailler la traduction à plein de niveaux. Donc on organise son temps, en fait. Il y a des jours où on a envie de traduire une liste. Il y a une liste d'architectes qui dure 10 pages. Et puis il y a une fois, ça va être la narration de Johnny Truant, qui a un style voilà très particulier, très débridé. Et puis des fois, on aura plutôt envie de traduire. Voilà, donc c'est une question de... C'est un vrai plaisir, en fait, pour un traducteur, parce qu'il n'y a pas d'ennui, jamais. Il n'y a rien de monocorde, au sens où il n'y a pas une seule voix. Et puis après, il y a un rapport physique au texte qu'on a rarement quand on est traducteur, hein, parce que sont des lignes qui se suivent. Et là, on a des blocs de texte, il y a un jeu avec des appels de notes, donc ça oblige à une espèce de gymnastique à la fois intellectuelle, mais très visuelle et très, très physique. Et ça, c'est une expérience. C'est-à-dire c'est rare qu'une traduction devienne une expérience physique. C'est un peu comme de la gymnastique, voilà.
Oui, je me souviens notamment d'une page, peut-être pour donner un exemple concret à nos auditeurs. Le personnage donc arpente ses souterrains dans un grand escalier. Il doit monter à une échelle, je crois, et donc la mise en page reproduit les barreaux d'une échelle. Donc j'imagine que vous, en tant que traducteur, vous avez dû aménager vos phrases pour qu'elles correspondent à la taille des barreaux.
Ouais, ça c'était très intéressant. C'est parce que bon, on parle souvent en traduction d'une chose étrange qui s'appelle le coefficient de foisonnement. C'est-à-dire qu'en général, la traduction française est plus grande, un peu comme la maison est plus grande à l'intérieur, elle est plus grande de 10 ou 15%, etc. Or là, on a un texte presque à contrainte, hein, puisqu'il faut respecter physiquement une mise en page. Et donc, ça m'obligeait à travailler avec le metteur en page du livre à l'époque chez De Noël, pour retravailler ma traduction, pour que des fois la ligne ne fasse que 15 caractères, et puis 14, et puis 13, et puis 12, etc. Donc, c'est-à-dire que même une fois la traduction finie, il y avait un travail d'ajustement à faire comme ça pour la mise en page.
Alors c'est un livre qui a, dès sa parution, suscité une fascination, notamment sur Internet. Il y a un lien avec le web et ce livre, mais on y trouve notamment de nombreux exégètes. Est-ce que tous ces fans vous ont aidé, vous, à passer les crevasses les plus ardues à traduire ?
Oui, bien sûr. Je pense que c'est une traduction que j'aurais pas pu faire s'il n'y avait pas eu à l'époque un engouement sur les forums. Ou quand les gens effectivement se sont aperçus qu'il y avait des choses qui étaient cryptées, codées, etc., des acrostiches, des choses comme ça, ils se sont tous mis à les chercher et à les trouver, ce qui était impossible à faire soi-même. Et j'aurais pu le faire si l'auteur m'avait aidé, mais à l'époque, Marc Danielewski, quand je me suis aperçu qu'il y avait des choses cryptées, que je lui ai dit peut-être tu pourrais me les indiquer, ça on gagnerait 1000 ans, m'avait dit « have fun ». Ce qu'on peut traduire par « démerde-toi ». On a beaucoup communiqué avec des internautes, évidemment américains en premier lieu, mais après il y a des Français même qui se sont amusés à lire l'édition américaine et à chercher. Et voilà, ils ont trouvé des tas de choses qui sont très difficiles à trouver. Vous pouvez pas commencer à regarder la première lettre de chaque mot en vous disant qu'il y a des acrostiches partout ou des choses comme ça. Voilà, il y avait du braille, il y avait du morse. C'était quand même assez compliqué. Mais c'est ce qui a provoqué une espèce de folie littéraire autour de ce livre. C'est-à-dire que du moment qu'il y a des choses cryptées, on les cherche. Et à ce moment-là, on peut en trouver d'autres. Et en fait, on crée soi-même des codes en cherchant, ou peut-être il n'y en a pas. Mais c'est ce que voulait Danielewski. Parce que moi, je trouvais ça inquiétant. Je veux dire, mais je vais rater forcément des choses. Il me dit, non, tu vas en rater, mais tu vas en créer d'autres à force d'en chercher.
Alors, on parle de cette dimension énigme de ce livre, mais il y a aussi une dimension littéraire. Est-ce que vous l'avez senti en traduisant ?
Alors, c'est compliqué parce que comme il y a plusieurs niveaux de narration, il veut faire un peu un livre total. Donc, il est à la fois dans la narration, il est à la fois dans le mystère, il joue avec le roman gothique, il joue avec le roman d'épouvante et il joue énormément avec la glose. C'est-à-dire que, puisque voilà, c'est quand même un film qui n'existe pas... sur lequel a écrit un aveugle, donc il y a une mise en abîme qui dit quelque chose sur la lecture en tout cas, que c'est chacun voit quelque chose qui n'existe pas, je pense.
On a aussi ce qu'on pourrait qualifier de fiction académique, une fausse thèse qui parle de ce faux film.
Oui, je pense que le rôle de la glose, c'est pour renforcer cette farce, hein, qui est le pacte de fiction, c'est-à-dire que voilà, vous admettez que quelque chose d'absurde existe, et donc lui, il le dédouble, il le triple à tous les niveaux, et pour qu'on continue à y croire. C'est-à-dire, plus le faux est déplié, plus on a un effet de vrai, bizarrement.
Est-ce que vous diriez que c'est un livre difficile à lire, ou est-ce qu'il a tellement de portes d'entrée que finalement, on en trouve toujours une pour rentrer dans cette maison ?
Moi, je pense qu'il est plus difficile à traduire qu'à lire, mais les faits ont prouvé que c'est un livre qui avait réussi à fédérer en fait deux sortes de lecteurs. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ne lisaient que du fantastique, de la SF, de la fantasy, des choses comme ça, qui se sont passionnés pour ce livre, et du coup, ça les a amenés, via tout le réseau de références du livre, à une littérature plus mainstream ou plus littéraire. Et de même, des gens qui, eux, ne lisaient peut-être que des choses très littéraires blanches, du coup, se sont aperçus que finalement, dans le domaine du fantastique et de ce genre de délire, il y avait vraiment des possibilités d'écriture. Et puis, je pense qu'aussi, il y a un côté poétique très fort, qui montre que, voilà, que les Américains, tout ce qu'ils ont toujours fait en poésie, n'ont pas peur de bousculer la mise en page, l'organisation des mots, etc. Parce que c'est pas intellectuel, mais au contraire, c'est très physique de jouer avec les mots sur un espace.
Vous dites jouer avec les mots. Est-ce que ce côté ludique, il est important aujourd'hui en tant que traducteur ? Est-ce que vous le retrouvez souvent dans la littérature que vous traduisez ?
Alors, des livres comme La Maison des Feuilles, non, j'en ai pas revu beaucoup. Je pense que c'est plus qu'un l'apanage de la poésie ou de la littérature, de la fiction américaine. Mais parce que peut-être dans la littérature américaine, la frontière est très poreuse avec la poésie. Enfin, il n'y a pas d'inhibition par rapport à ça. Alors qu'en France, je pense qu'il y a un peu une barrière entre les romanciers et les poètes.
L'édition couleur remasterisée de La Maison de Feuilles vient de paraître aux éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture. Merci beaucoup, Claro.
Et merci à vous, Marie Sorbier. Comme chaque soir, nous quittons ce studio, nous quittons Paris pour prendre des nouvelles d'artistes présentant leur travail un peu partout en France ou à l'étranger. Ce soir, nous sommes en ligne avec la chef d'orchestre Marie Jacquot. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Vous dirigez la nouvelle production de l'Opéra National de Lorraine, en l'occurrence L'Amour des Trois Oranges de Prokofiev, opéra en quatre actes, créé en 1921, livré et musique de Prokofiev. On y découvre un prince qui souffre d'un drôle de mal, hein. Il a perdu le goût du rire, comme le rire est le propre de l'homme. Comment peut-il continuer à gouverner sans humanité ? Dans quelle mesure, Marie Jacquot, le livret d'un opéra, de celui-ci en l'occurrence, peut nourrir votre direction musicale ?
C'est un livret étonnamment riche, expressif, souriant, énergique. Et c'est assez rare en tant que chef d'orchestre d'avoir accès à ce genre de légèreté. En général, on est souvent dans des opéras où ça parle d'amour, de mort, de la philosophie, des sous-textes, où on doit réfléchir beaucoup. On se met dans une phase de réflexion assez profonde, même parfois dépressive. Et ce texte léger, très, très accessible, très direct pour le spectateur et aussi très, très drôle, me donne l'opportunité de pouvoir apprécier et regarder et prendre du plaisir en dirigeant et en créant cette production. Ce qui est assez rare, effectivement.
C'est vrai que la farce est forte, elle s'inspire beaucoup de la Commedia dell'arte. Quels ont été les échanges entre vous et la metteur en scène Anna Bernreitner,
Anna Bernreitner m'a contactée très rapidement. afin qu'on puisse ensemble se mettre d'accord sur une vision scénique et musicale. Elle a trouvé un concept intéressant qui prend en compte le film de Truman Show, donc quelqu'un enfermé dans un univers qui pour lui est réel, mais qui pour le spectateur est créé de toutes pièces. Ce qui rentre vraiment très bien dans ce concept assez surréaliste, féerique et presque kafkaesque de ce livret époustouflant.
C'est vrai qu'on se demande souvent quel est le lien qui peut exister entre la fosse et la scène. Il faut que vous ayez la même lecture de l'œuvre pour que la production soit réussie.
Je ne pense pas qu'on ait besoin nécessairement de la même vision de l'œuvre, parce que de toute façon, chaque interprète voit une œuvre différemment. Mais il faut effectivement qu'on puisse collaborer et se mettre d'accord sur les grandes lignes. Mais je pense que ce qui rend la chose fascinante et intéressante, c'est justement de pouvoir mettre ces deux visions et mettre les visions de tout le monde, de toute la production, des chanteurs, dans un même pot pour pouvoir en donner le meilleur.
Alors, concernant votre partie, Marie Jacquot, la direction musicale, comment est-ce que vous pourriez définir, nous parler de la musique de Prokofiev dans cet opéra ?
La musique de Prokofiev dans cet opéra est en contraste avec la musique qu'il écrit principalement dans ses symphonies. Une musique assez ironique, sarcastique, percutante. Dans cet opéra de L'amour des trois oranges, on retrouve une musique très légère, souriante, colorée, très virtuose. La musique de Prokofiev est toujours très virtuose, mais moins lourde et pesante que certaines pièces qu'il a pu écrire. Et donc, c'était un voulu du compositeur de chercher ce contraste avec des œuvres qu'il avait écrites dans le passé ou dans le futur. Parce que c'est une œuvre relativement jeune. Il avait que seulement 30 ans quand il l'a écrite.
Et quels sont les mots qui ont été importants entre vous et l'orchestre pour leur indiquer précisément ce que vous souhaitiez ?
Beaucoup de travail en détail, beaucoup de mise en place. C'est une pièce extrêmement virtuose pour l'orchestre, pour tous les pupitres, aussi bien pour les cordes que pour les vents, les bois ou les cuivres. Beaucoup de percussions. C'est un orchestre gigantesque. C'est rarement joué. Parce qu'il y a certains opéras qui ne peuvent pas accueillir autant de musiciens dans la fosse. Et j'ai beaucoup insisté sur le son de la musique russe. La musique russe qui est très soutenue au niveau du son, au niveau des articulations. Elles sont moins légères que la musique française, elles sont moins accentuées. Et j'ai essayé de chercher ces contrastes et ces couleurs avec l'orchestre, et j'espère pouvoir mener la chose avec le plus de détails possible.
Ouais, mais est-ce qu'il y a justement, par rapport à ce type de partition, mais d'une façon générale, est-ce qu'il peut y avoir des moments d'ivresse à votre place ?
Effectivement, oui. Dans cette situation précise, comme je vous ai dit, c'est une partition si virtuose qu'on essaye de vraiment rester le plus concret et précis possible afin de donner seulement les bonnes informations aux chanteurs et aux musiciens. Donc il y a peu de place pour l'euphorie ou l'enthousiasme qu'on pourrait avoir avec le dernier mouvement de la deuxième symphonie de Mahler, par exemple.
On pourra découvrir cette production de L'amour des trois oranges de Prokofiev à l'Opéra National de Lorraine à Nancy du 16 au 22 novembre. Merci beaucoup Marie Jacquot. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Aïssa Toundoy, Boris Pinot, Anouk Minaudier, Lucille Como, Marie Sorbier et Apolline Limosino.